Eh ben, on est presque sur les tops, parce que là, ils vont arriver.
Ah,
ouais, ils vont titiller nos petites oreilles.
Ça bip, bip, bip.
Bah, maintenant. Oh. 18h sur France Inter. Aïe, c'est Fabienne Sainte, je viens de dire Joliette.
Ah, bonsoir. Allez, bien le bonsoir. Calmez-vous maintenant. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et pour entamer la semaine, elle est là, elle aussi, avec le journal Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence au tribunal avec un procès qui parle de souffrance au travail.
Quand travailles-tu? C'est d'abord le procès des suicides à France Télécom. Il y a 10 ans, 35 salariés se tuaient. L'entreprise et ses dirigeants de l'époque comparaissent depuis cet après-midi pour harcèlement moral. Et puis le rapport publié aujourd'hui par l'Organisation Internationale du Travail ne dit pas autre chose. La France est très mal classée. On ne pourra plus dire que l'on ne savait pas. C'est le message des experts de l'ONU qui rendent un rapport catastrophiste sur la biodiversité. Dans le monde, 1 million d'espèces sont sur le point de disparaître. Et la campagne pour les élections européennes en France, ce sont les Républicains qui regardent d'un mauvais œil l'engagement du Premier ministre Édouard Philippe pour tenter d'attirer les électeurs de droite vers la liste de La République En Marche. Et enfin, les petites communes, bien embarrassées, elles vont devoir trouver de la place et des panneaux pour 33 listes. Pas une mince affaire. Du soleil demain matin, météo complète à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
18h15, un jour dans le monde, nous sommes en Thaïlande. Ce soir, qui vient de couronner son roi, qui attend le résultat de ces élections, un pays étonnant qui va de coup d'état en coup d'état, un roi qui n'a rien d'une potiche façon reine d'Angleterre, qu'elle me pardonne d'ailleurs, elle qui est arrière-grand-mère aujourd'hui. Ce soir, nous sommes aussi en Corée avec des mères célibataires. 19h20, le téléphone sonne, on s'accroche à l'équipe MAG ce soir pour parler d'homophobie dans le sport. Ce numéro spécial a fait tant de bruit, du bon bruit, mais a suscité aussi tellement de réactions dégueulasse, disons les choses clairement, qu'on s'est dit qu'il fallait poursuivre cette conversation. Et c'est ce qu'on va faire. Très peu de sportifs sont outés aujourd'hui, très peu de sportives aussi. D'ailleurs, contrairement aux idées reçues, les chants de supporters restent les mêmes dans le foot notamment. Qu'est-ce qui se passe chez les amateurs? Comment on lutte efficacement contre l'homophobie dans le sport? Vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Se tuer au travail, plus qu'une image, c'est une réalité pour certains salariés.
Et c'est une première aujourd'hui. Une entreprise du CAC 40 est jugée pour harcèlement moral. Le procès de France Télécom, 10 ans après la série de suicides parmi ses salariés, 35 suicides en 2008 et 2009. Procès fleuve, les audiences sont prévues jusqu'au 12 juillet. Sur le banc des prévenus, l'ancien patron Didier Lombard. En 2006, il avait prévenu « Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre par la fenêtre ou par la porte ». Fermez les guillemets. Jugé également aujourd'hui le DRH de l'époque, l'entreprise devenue Orange en tant que personne morale et l'ex numéro 2. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Amélie.
Vous suivez le procès pour France Inter. Alors l'audience a démarré dans une salle comble.
Oui, les juges d'instruction ont retenu le cas de 39 salariés et agents de France Télécom. 12 ont tenté de se tuer, 8 ont développé des maladies, 19 se sont suicidés. Rémi Louvradou était un de ceux-là. Sa femme et ses 4 enfants s'avancent ensemble à la barre pour réitérer leur constitution de partie civile. Raphaël, la voix nouée, n'a rien oublié.
Moi, mon père, le 26 avril 2011, il y a 8 ans, il s'est immolé par le feu devant son lieu de travail. On a découvert après sa mort qu'il avait écrit un courrier à sa direction, un parmi d'autres, dans lequel il met en cause la politique managériale de France Télécom et dans lequel il conclut en disant « Vous faites en sorte que le suicide soit la seule solution ». Et il a fallu attendre 10 ans pour qu'on amène finalement les responsables devant un tribunal. Ce qu'ils risquent, c'est trop peu par rapport à ce qu'ils ont commis.
Poursuivi pour harcèlement moral, les 7 prévenus encourent 1 an de prison. L'entreprise France Télécom, également jugée, tente d'apporter une parole d'apaisement par la voix de l'ancien DRH Bruno Mettling.
Nous pensons évidemment d'abord aux victimes, aux collègues et à l'ensemble de l'entreprise. Je veux simplement dire que France Télécom devenue Orange est reconstruite. Elle prendra toutes ses responsabilités. Le temps est venu à la justice de se prononcer sur ce qui s'est passé.
Les prévenus prendront la parole demain. À 77 ans, l'ancien PDG Didier Lombard est celui qui attire le plus les regards et la colère des anciens de France Télécom.
Corinne Audouin, en direct du tribunal correctionnel de Paris avec Éric Gérard au moyen technique. Merci à vous deux. France Télécom, devenue Orange, un exemple donc de la souffrance au travail. Loin d'être une exception, l'Organisation internationale du travail publie justement aujourd'hui un rapport mondial. Elle a étudié la situation d'1,2 milliard d'actifs sur toute la planète, dans 41 pays. Et la France s'illustre par la dureté des conditions de travail. Les précisions à Genève, au siège de l'OIT, avec Jérémy Lanche.
27% des gens ont un emploi qui, du point de
vue de la qualité du travail est positif, sauf qu'il travaille de longues heures et notamment des heures après les heures au bureau.
Agnès Parent-Thirion travaille à la fondation Eurofound qui a publié le rapport avec l'OIT. Pour elle, tout n'est pas jeté dans le monde du travail en France, mais c'est un fait, les conditions d'emploi se dégradent.
Une des particularités les plus frappantes pour la France, 27% des emplois sont caractérisés par des risques psychosociaux élevés. Et puis, il y a quand même quelque chose qui nous a beaucoup surpris, mais on le voit dans d'autres enquêtes, il y a 21% des gens qui ont un emploi qui est caractérisé par une exposition à des risques physiques élevés. Donc quand on nous dit les robots sont là, etc., ça n'empêche pas que le travail reste physique.
Sur ce point, en Europe, il n'y a que la Roumanie qui fait pire que la France. D'ailleurs, le seul pays où les risques physiques continuent d'augmenter. Le secteur de la construction est particulièrement concerné, mais pas que. Pour Agnès Parent-Thirion, cela s'explique aussi par les politiques publiques qui ont été menées ces dernières années en France et le choix de donner la priorité à la réduction du chômage au détriment parfois de l'amélioration des conditions d'exercice du travail. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Un autre cri d'alarme ce soir, Amélie, celui de la planète et des espèces en danger.
Un cri silencieux tant on ne mesure pas assez l'ampleur du désastre à venir. Sur les 8 millions d'espèces recensées, 1 million sont aujourd'hui menacées de disparaître à très court terme. Un groupe d'experts de l'ONU a rendu son rapport aujourd'hui. Jamais les hommes n'ont autant exploité et pollué la nature qui lui permet pourtant de vivre, de se nourrir, de s'abriter. Les 3/4 de l'environnement terrestre sont gravement altérés. Les 2/3 de l'environnement marin sont également touchés. La chercheuse française Yun Shin fait partie des experts qui ont rédigé ce rapport à l'IPBES, l'organisme de l'ONU pour la biodiversité.
Le constat, c'est que la biodiversité est dans un état critique. Environ 1 million d'espèces qui sont dans un état de risque à l'extinction. La vitesse d'extinction également, qui est de 10 à 100 fois plus rapide que la vitesse d'extinction naturelle. Les politiques ne pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ne connaissent pas le rôle de la biodiversité pour nos sociétés, pour notre qualité de vie. C'est bien joli de changer nos modes de vie dans nos maisons, dans notre assiette, mais il faut que les politiques suivent. Il faut que les politiques suivent avec des incitations, donc arrêter les subventions qui sont délétères. Je prends l'exemple de la pêche, les subventions, non seulement accroissent la pression de pêche sur une biodiversité qui est déjà atteinte, mais dans certains pays, le niveau de subvention est aussi plus élevé que le niveau des bénéfices de la pêche. Donc on rentre dans une situation qui est complètement absurde, alors que les solutions sont là. Donc voilà, donc il faut aller de l'avant.
La scientifique française Yun Shin, elle répondait à Sandy Dauphin. Et pour combattre leur disparition, 3 gypaètes barbus viennent d'être réintroduits aujourd'hui dans les Cévennes. 3 jeunes vautours baptisés Europe, Loza et Mona. Autre rapace disparu cette fois, un avis de recherche est lancé en Bretagne. Un pygargue à tête blanche, vous savez, c'est l'oiseau symbole des États-Unis. Celui-ci pèse 4,5 kg et 2,20 m d'envergure. Il est parti lors d'une représentation de l'aquashow d'Audierne dans le Finistère. Il est introuvable depuis le 27 avril. Eux s'opposent à toute hiérarchie entre les espèces, mais le font savoir à travers des actions violentes. Des militants antispécistes en sont pris à l'étal d'un boucher bio ce week-end dans un marché couvert du 10e arrondissement de Paris. 2 personnes ont été arrêtées et sont en garde à vue ce soir. Les suspects sont poursuivis pour violence en réunion et dégradation. Fabienne, vous savez peut-être ce qu'est une porte étroite citoyenne.
Alors, pas du tout.
C'est pas du tout un jeu de piste, ni une énigme, et pas non plus le roman d'André Gide. En fait, c'est une possibilité offerte aux citoyens de lancer un recours directement devant le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ils sont plus de 36 000 à avoir déposé un mémoire dans la foulée des parlementaires, c'est l'une des conditions, pour demander l'annulation de la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, inscrite dans la loi Pacte. Bonsoir Faustine Calmel, vous nous avez rejoint pour nous expliquer derrière cette porte étroite, des milliers de signataires donc, aux intérêts parfois divergents.
On trouve des gilets jaunes qui défendent le maintien d'ADP comme bien collectif, des syndicats inquiets pour l'emploi, mais aussi l'association Anticor pour qui privatiser Aéroport de Paris va faire perdre de l'argent à l'État, son vice-président Eric Halt.
Aéroport de Paris rapporte chaque année une rente importante, donc pourquoi vendre pour constituer un fonds qui ne rapportera sans doute pas autant que rapporte Aéroport de Paris pour soutenir des investissements innovants.
Et de dénoncer un cadre à Vinci qui a fait savoir son intérêt. Parmi les signataires aussi des habitants inquiets pour leur sommeil. Françoise Brochot, présidente d'une association de riverains de Roissy, prend l'exemple de l'aéroport de Toulouse passé au privé.
Là-bas, les riverains ont pu constater malheureusement une augmentation du trafic en termes de passagers mais aussi d'avions. Et par ailleurs, un manque de respect des réglementations environnementales qui avaient été mises en place pour protéger les riverains.
Mais pas grand-chose de commun donc entre tous ces signataires si ce n'est le désir de se faire entendre d'un conseil constitutionnel jusqu'à présent inaccessibles, défend maître Christophe Legevac, qui a préparé cette porte étroite citoyenne.
Cette technique a été utilisée par les lobbies, mais discrètement. Là, nous braquons les projecteurs sur le conseil en disant, écoutez, vous avez 36 000 personnes qui aujourd'hui vous demandent de vérifier un certain nombre de points de droit ou de fait. Si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir justifier un peu plus le désamour des citoyens vis-à-vis des institutions.
Et le conseil doit se prononcer d'ici 10 jours.
Merci beaucoup Faustine Calmel. Deux grands-parents saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Ils n'en peuvent plus d'être privés de leurs petits-enfants, retenus en Syrie car leurs parents étaient des djihadistes français, partis combattre dans les rangs de Daesh. Le gouvernement français refuse pour l'instant de rapatrier la quasi-totalité de ces mineurs. À l'étranger, encore est-ce un geste d'apaisement de la part du président Erdogan pour la minorité kurde. Le chef historique des Kurdes en Turquie a pu rencontrer ses avocats. Ce n'était pas arrivé depuis 8 ans à Abdullah Öcalan, cible du pouvoir turc. Il purge une peine de détention à vie. Le calme est revenu dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont annoncé un cessez-le-feu pour le début du Ramadan après un grave accès de fièvre. En 2 jours, 25 civils et combattants ont été tués dans la bande de Gaza. Accord trouvé grâce à la médiation du voisin égyptien. Une petite victoire pour Carles Puigdemont, le chef des séparatistes catalans espagnols exilé en Belgique pour échapper aux poursuites de Madrid. Un tribunal espagnol l'autorise à se présenter aux élections européennes en Espagne, donc malgré le mandat d'arrêt pour son rôle dans la tentative de sécession.
Et justement, on y vient aux élections européennes le 26 mai prochain, donc en France, et la droite fait campagne.
Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, se rendait aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône avec la tête de liste LR François-Xavier Bellamy. Avant un meeting dans moins d'une heure à Marseille, ils se sont arrêtés à La Ciotat où l'on a parlé stratégie. L'adversaire n'est plus simplement le Rassemblement National mais aussi la majorité En Marche, surtout depuis que le Premier ministre Édouard Philippe s'est lancé dans la campagne et tente de rallier les voix de la droite. Écoutez Laurent Wauquiez au micro Inter d'Élodie Fauré.
Ils ont une campagne qui patine et je vois bien qu'ils sont en train de se lancer dans une opération sauf qui peut. Je pense qu'ils font une profonde erreur parce que c'est pas un mauvais gouvernement qui sauvera une mauvaise tête de liste et parce que les Français vont pas se laisser dicter leur vote par le gouvernement. Je pense qu'ils font une profonde erreur en nationalisant ce scrutin et qu'ils prennent le risque d'avoir un vrai effet boomerang.
Mais ils peuvent pas prendre des voix à droite en envoyant comme ça Édouard Philippe au front.
Vous croyez qu'Édouard Philippe prend encore des voix à qui que ce soit? Moi, je crois pas à ça. Et je crois pas à cette espèce de politique à l'ancienne où on sort en urgence le gouvernement et le Premier ministre parce qu'il y a panique sur une liste. Nous, on est très constants. On est les seuls à faire campagne depuis plus d'un mois et demi sur le terrain, avec un vrai élan et un vrai intérêt qui s'est mis en place. Alors je comprends que de l'autre côté, il y a un peu de peur, un peu de crainte, un peu de panique, ce mouvement de sauf qui peut, mais je ne crois pas que c'est en sortant un Premier ministre ou quelques membres du gouvernement qu'on intimide les Français.
Les élections européennes, ce sont 33 listes, 33 bulletins possibles et un casse-tête pour les petites communes où installer 33 panneaux électoraux. C'est très sérieux. Dans les villages, on n'a pas forcément le matériel et les emplacements suffisants, alors que dans les villes, les agents municipaux vont devoir mettre les bouchées doubles. Exemple dans le Limousin avec le reportage d'Alain Ginesté.
À Limoges, Laurent a déjà fait ses calculs. En plus des panneaux déjà installés, le chef du service matériel de la mairie sait qu'il devra déposer 9 panneaux de plus à chaque emplacement électoral. Et il y en a 76 dans la ville. Du coup, maître de chantier à la main, il étudie d'autres solutions.
Alors là, je mesurais par rapport à la dimension de l'affichage, puisqu'il y a une réglementation, pour voir si éventuellement on peut diviser les panneaux en 4. Mais ce qui va être très compliqué, donc voilà. C'est le casse-tête, c'est ce que l'on peut dire, oui.
Situation encore plus compliquée dans les petites communes. À Chamboré, 800 habitants, le maire Jean-Jacques Dupraz dispose de 12 panneaux électoraux. Si on les divise en deux, ça fait 24 places. Encore insuffisant, comment faire?
J'ai demandé ce matin qu'on regarde si on pouvait en acheter, mais ça va être extrêmement compliqué pour les avoir dans les délais voulus. Puis c'est un coût supplémentaire qu'on n'avait pas envisagé. J'ai demandé également à ce qu'on regarde si on n'a pas des restes de planches de bois ou des choses comme ça, des vieilles tables qui servaient pour les fêtes anciennement, voir si on ne peut pas récupérer ça pour faire des panneaux, enfin voilà, bricoler quelque chose qui permette de répondre à cette situation assez inattendue.
En tout cas, tout doit être prêt d'ici vendredi afin que les listes, toutes les listes, puissent s'afficher au regard des passants.
Et l'on vote en France le 26 mai. Mais souvenez-vous de cette date très importante. Et puis les pronostics vont bon train outre-Manche pour le prénom du fils du prince Harry. Oui, sa femme, Meghan Markle, a donné naissance ce matin à un petit garçon. Tout le monde se porte bien, selon le communiqué de Buckingham Palace.
Eh bien, formidable. Merci beaucoup Amélie Perrier pour le journal. Merci beaucoup, à tout de suite dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radars ce soir, on va parler des 1000 chèques, bombes caloriques, mais surtout politiques. C'est l'arme préférée en ce moment des antifascistes britanniques. Avis de turbulence pour le futur aéroport de Mexico et puis un clin d'œil aux musulmans fans de foot en ce début de Ramadan.
Il sera donc autour de 18h37. À tout à l'heure Amélie. Ce soir, nous allons en Thaïlande essayer de comprendre ce pays dont on découvre au fond que l'on découvre au fond alors que son roi vient d'être couronné. Nous sommes en Corée du Sud également avec les mères célibataires ce soir. Et puis 19h20, le téléphone sonne. On se met dans les roues de l'équipe MAG ce soir pour parler homophobie dans le sport. Ce numéro a fait tant parler de lui qu'il prouve combien il est important qu'on en parle ce soir, qu'on poursuive la conversation, qu'on se demande pourquoi on n'ose pas se déclarer ouvertement gay dans le sport ou très peu. Homophobie, lesbophobie, remarques déplacées, coups dans les vestiaires aussi parfois, insultes dans les tribunes. Il y a de la pédagogie à faire sans doute, bien sûr, mais peut-être aussi y a-t-il assez à rappeler, y compris dans les stades, que l'homophobie est un délit. On en parle au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léa, c'est un temps encore calme demain.
Oui, la calmie temporaire va se poursuivre demain, mais avec un soleil de plus en plus voilé, le ciel devenant même laiteux l'après-midi. Ce voile nuageux de plus en plus dense est dû à l'approche d'une perturbation atlantique. Entre la Bretagne et la Gironde, le ciel sera même de plus en plus chargé. Il faut s'attendre à quelques ondées demain après-midi entre la basse Normandie, le massif central et le midi toulousain. Et puis des pluies plus régulières vont aborder la façade ouest, notamment la Bretagne, avant la soirée. Sur le quart sud-est, on profitera d'une matinée bien ensoleillée et surtout le vent va tomber pour souffler à nouveau l'après-midi mais en venant de la Méditerranée, ce qui va apporter des paquets nuageux demain après-midi entre les plages du Languedoc et la Côte Bleue. Entre le nord de la Seine et le Bas-Rhin, on gardera un ciel nuageux et quelques averses pourront se produire demain après-midi.
Et sinon, encore quelques gelées donc pour cette nuit ?
Oui, les températures vont poursuivre leur progression, mais il faut encore s'attendre à quelques températures négatives demain. Ces petites gelées seront bien moins nombreuses que la nuit dernière. On a d'ailleurs battu des records de froid la nuit dernière. Demain après-midi, les maximales seront voisines des normales de saison. 15 degrés pour Nancy et pour Lille, 16 degrés à Mulhouse et à Brest, 17 degrés pour Paris, Caen, Aurillac et La Rochelle, 18 degrés à Lyon, Nice et Montpellier, 20 pour Marseille et jusqu'à 23 à Toulouse.
Sébastien Léas de Météo France, merci Sébastien et à tout à l'heure après 19h.